Radio Kapi.
La feuille de route du processus électoral déjà publiée, le président de la République, le gouvernement et le Parlement doivent s'acquitter à présent chacun de ses obligations pour permettre à la CENI de mettre en œuvre son agenda électoral. C'est ce que recommandent les organes techniques de la CENCO et de l'ECC. La RDC, admise au Conseil des ministres de la Communauté de l'Afrique de l'Est, une adhésion sollicitée par la RDC depuis 2019, mais pour l'intégration effective du pays dans ce bloc régional, il y a une procédure à suivre, explique le professeur Serge Tshibangu, mandataire spécial du président Félix-Antoine Tshisekedi dans ses négociations. L'invité Bireke Kafoura, administrateur du territoire de Bafoua Sende dans la province de la Tshopo, il nous parle des travaux de réhabilitation en cours sur la route Kisangani-Bafoua Sende et aussi de l'insécurité devenue récurrente sur ce tronçon routier de la nationale numéro 4. Madame, Messieurs, bonjour. La feuille de route du processus électoral a été rendue publique par la CENI le 3 février dernier, vous le savez. En réaction, les organes techniques de la CENCO et de l'ECC encouragent le président de la République, le Parlement et le gouvernement à s'acquitter chacun en toute responsabilité de ses obligations afin de permettre à la CENI de mettre en œuvre son agenda électoral, tout en appréciant le fait que la CENI a mis à la disposition des parties prenantes ce document interne dans un communiqué rendu public. Le vendredi 11 février dernier, il recommande néanmoins à la centrale électorale de travailler dans un commun accord avec ses différents partenaires pour réussir la mise en œuvre de cette feuille de route. On écoute à ce sujet Cyril Ebotoko, chargé du programme éducation civique et électorale des organes techniques de la CENCO. Il a été joint par Pierrot Elamegi.
Il faudra que la CENI travaille avec le gouvernement sur un plan de décaissement. Conformément à la feuille de route qui était publiée par la CENI dira à tel moment, je dois avoir tel montant pour réaliser telle activité. Comme ça, ils le font pour toutes les lignes de sa feuille de route, comme s'ils auraient un plan de décaissement et le gouvernement va commencer à donner de l'argent en fonction de ces plans de décaissement pour que la CENI ne soit pas essoufflée certainement pour mener ses actes. La CENI doit approcher le Parlement et avec le Parlement, au regard de sa feuille de route, le Parlement et la CENI devaient avoir un petit planning. Dire par exemple qu'à tel moment, nous avons besoin de telle loi. À tel moment, nous avons besoin de telle autre loi. Comme ça, le Parlement va travailler en fonction de ce planning et la CENI ne pourra pas considérer cela comme une crainte. Il faudra que la CENI travaille avec le gouvernement pour que les mesures de mitigation soient prises à temps et anticipativement pour permettre à cette population de voter cette fois-ci pour éviter ce qui s'est passé la fois passée.
Par ailleurs, l'FDC et alliés recommandent à la CENI de se préparer techniquement et financièrement à combiner tous les scrutins de façon à les organiser en un seul jour en mettant la priorité sur les élections municipales et locales en 2023. C'est l'une des recommandations faites par ce regroupement politique samedi à Kinshasa à l'issue d'un atelier de formation de ses cadres sous le thème « Le cycle électoral face aux enjeux électoraux de 2023, comment se préparer techniquement ?» L'FDCA a aussi proposé aux parlementaires d'autres réformes pour une élection apaisée et organisée dans le respect du délai constitutionnel. Prince Willy Mishiki, président de l'UNANA, allié à la FDC, le dit dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Nous pensons aussi qu'il faut mettre fin au fait que lorsqu'il y a un candidat, il doit toujours mettre comme suppléant sa femme, son enfant. Nous voulons mettre fin à ça. Ce sont des réformes que nous allons apporter aujourd'hui. Nous militons aussi pour que les Congolais de la diaspora participent à ces élections, surtout à l'élection présidentielle, puisque c'est une élection à une seule circonscription électorale. Et nous voulons mettre tout ce qu'il faut à notre possession pour que nous puissions mutualiser les services d'identification et de recensement, notamment l'ONIP, la CNI, mais aussi l'Institut National Statistique. Nous devons aussi rendre la CNI autonome financièrement. La loi parle de l'autonomie financière. La CNI doit avoir sa dotation et la gérer d'une manière indépendante. Un éventuel glissement pourrait nous amener vers une crise. On ne peut pas aujourd'hui se permettre ce luxe-là. Nous avons encore presque une année et demie pour le faire et nous avons la possibilité, s'il y a la volonté politique, nous pensons que ces élections locales et municipales sont capitales puisque ça fait 39 ans qu'on n'a pas organisé ces élections-là. Et c'est possible en les couplant avec les autres scrutins électoraux.
Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres de la Communauté de l'Afrique de l'Est a approuvé cette semaine l'admission de la République démocratique du Congo dans ce bloc régional, une adhésion sollicitée par la RDC depuis 2019. Quelle devra alors être la suite de la procédure pour l'intégration effective de la RDC dans ce bloc de l'Est? Réponse avec le professeur Serge Djibangou, mandataire spécial du président Félix-Antoine Tshisekedi dans ces négociations. Il a été joint par Pierrot et la Mégie.
C'est que la prochaine étape, elle est en double. La première, il est prévu donc un sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté qui devrait se tenir en fait ou être convoqué au courant de ce mois de février. C'est le président exercice de la communauté, le président Uhuru du Kenya, qui devrait convoquer cette réunion extraordinaire des chefs d'État pour pouvoir voilà endosser la décision qui a été prise par toutes les instances de la communauté de l'Afrique de l'Est, confirmant donc l'adhésion de la RDC au sein de cette communauté. Deuxièmement, à partir de la date donc de ce sommet, la RDC aura pratiquement 12 mois pour pouvoir soumettre ou introduire les instruments de ratification auprès du secrétariat général de la communauté d'Afrique de l'Est. Et bien sûr, vous connaissez la procédure avant que nous puissions ratifier ce traité. Donc, il faudra bien sûr les autorisations nécessaires venant de notre Parlement afin que le gouvernement puisse signer donc ou ratifier donc le traité de la communauté d'Afrique de l'Est.
Direction la province de la Tchopo. Les paysans habitant le long de la nationale numéro 4, axe Kisangani-Bafoua-Sendé, entre le point kilométrique 100 et 380, se plaignent du manque d'eau potable ainsi que du manque des centres de santé et d'écoles dans leur milieu. Ils ont soumis ces doléances à une délégation de l'ambassade des Pays-Bas en mission dans ces contrées le 10 et le 11 février courant. Il s'agissait d'une mission d'évaluation des activités réalisées par les paysans sous l'encadrement technique de Tropenbos RDC, bénéficiaire d'un appui technique et financier de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale CAFI et dont les Pays-Bas est l'un des bailleurs de fonds. Reportage de Jacques Moukoncolé.
Dans différents villages où huttes se sont arrêtées pour l'évaluation des activités réalisées par Tropenbos, les paysans ont saisi la balle au bon pour étaler leurs difficultés, non seulement dans le cadre de la préservation des forêts, mais aussi sur leur mode de vie, notamment en ce qui concerne le manque d'eau potable, d'écoles et des centres de santé.
Il n'y a pas l'école primaire, voire même une poste de santé. À partir de 1960 jusqu'à nos jours, notre communauté souffre, notre demande est qu'on puisse nous aider.
À ce sujet, bien que ces besoins ne fassent pas partie de son mandat, le directeur de Tropenbos RDC a révélé que son organisation a déjà pris contact avec une ONG internationale qui a arraché un projet de forage de puits pour fournir de l'eau potable à ses paysans. Professeur Alphonse Maïndo.
John Fowot, qui est venu nous voir, là, on peut intervenir. Et ça a abouti à un projet qu'on a introduit à la coopération belge et ça a été accepté. Et nous sommes en négociation pour signer l'accord pour ça. Donc les gens dans ces CFSL-là pourraient avoir des puits d'eau aménagés.
Pour sa part, la chargée des missions de l'ambassade de Pays-Bas en RDC, Evelyne Boesma, a fait savoir qu'actuellement le financement de son pays ne prend pas en compte d'autres secteurs en dehors du projet climat. Néanmoins, elle dit pouvoir mener le plaidoyer auprès du gouvernement congolais et d'autres organisations internationales pour voir dans quelle mesure y apporter des solutions idoines. Jacques Moukoncolé, Kisangani, Radio Okapi.
Toujours pas de courant de la SNEL, voici 5 jours dans la ville de Kalemi, province du Tanganyika. Du coup, les robinets ont séché dans les maisons de nombreuses familles. Les habitants se ruent sur le lac Tanganyika, ce qui fait redouter la résurgence du choléra dans la ville. Mais comment s'organise la vie des populations de Kalemi, privées également d'eau potable à côté du lac Tanganyika? Le point de la situation avec François-Xavier Mibé.
C'est le paradoxe même pour une ville comme Kalemi qui vit juste à côté du lac Tanganyika mais privée d'eau potable, pour ne pas reprendre l'expression d'un habitant de la ville. L'approvisionnement de la régie des eaux en eau potable au moyen du groupe électrogène n'atteint pas toute la ville. Le groupe s'est refoulé l'eau potable rien que pour les habitants de la zone basse, une activité à laquelle se livre la régie des eaux à chaque panne d'électricité de la SNEL. Les habitants de la cité, vivant sur les collines surplombant la ville de Kalemi, en sont privés. Dans la ville, la pénurie d'eau potable n'affecte pas encore l'hôpital général de référence. Cette structure médicale, avec ses 6 pavillons, reste encore épargnée au moyen du stock de la réserve stratégique. Cette réserve tient à cause d'un dispositif monté sur place par 5 tanks de 10 000 litres chacun. Les malades obtiennent encore l'eau potable en permanence. Mais pour combien de temps? Le service technique de la SNEL ne précise pas encore le temps que doivent prendre les travaux de dépannage sur la turbine de la centrale de Bendera qui alimente la ville. Kalemi, François Djabemibe, Radio Kapi.
Kasaï Oriental, cette marche hier à Mbujimayi des anciens agents du service de l'antifraude qui travaillaient à l'aéroport de Bipemba et dans les différents postes de péage affectés à ce poste depuis plus d'une année par le gouverneur déchu Jean-Maouija Mouteba sur base d'un arrêté provincial. Ces agents ont été remplacés par d'autres agents recrutés dans ce service par le gouverneur intérimaire, cela sans aucun motif avancé. Contacté, le directeur de cabinet du gouverneur intérimaire affirme que ces agents ont été remplacés à cause de l'improductivité. Pourtant, leur mission était de maximiser les recettes, dit-il. Plus de détails avec Esther Dalafina.
Ils étaient une vingtaine ce samedi dans les rues de Mbujimayi. Encadrés par la police et ses anciens agents du service de l'antifraude, se sont dirigés vers le gouvernorat de province où ils ont lu leur mémorandum devant les directeurs adjoints des cabinets du gouverneur de province intérimaire. L'un d'eux explique.
Nous avons été révoqués par le gouverneur intérimaire sans motif. Sans même être notifiés, nous avons vu seulement les gens venir nous dire que nous vous remplaçons. Sans savoir pourquoi, nous avons fait plusieurs fois les recours pour que nous puissions être établis dans nos droits. Pourquoi nous avons marché.
Contacté, les directeurs de cabinet du gouverneur de province intérimaire affirment que ces anciens agents ont été affectés à ce poste dans le but de maximiser les recettes, mais cette mission n'avait jamais atteint les objectifs assignés par la province. Signalons que ces anciens agents évoquent la correspondance du vice-premier ministre de l'Intérieur demandant aux autorités provinciales de ne plus bouger les agents dans différents services de l'État. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
Rendons-nous dans la province du Sankuru. Les affrontements sont signalés dans le territoire de Lodja. Une dizaine de personnes blessées grièvement et des maisons incendiées hier dans la localité de Ker, dans le secteur de Vungé, à plus ou moins 10 kilomètres du chef-lieu du territoire de Lodja. C'est le bilan de ces affrontements qui opposent depuis hier matin les habitants des localités de Nambelou et ceux de Ker dans le groupement de Koko, secteur de Vungé. L'administrateur de Lodja dit avoir déployé sur place une cinquantaine de militaires et des policiers pour calmer la situation. Le récit d'Esther Dalafina.
Les sources sur place affirment que les habitants de la localité de Nambelou s'affrontent à ceux de Ker depuis bientôt quelques jours. La même source affirme que tout a commencé la semaine dernière lorsqu'un motocycliste de la localité de Nambelou a été assassiné sur la route par les personnes non autrement identifiées. Les habitants de son village sont allés venger sa mort dans la localité de Ker en liant ce dossier à un conflit foncier qui oppose depuis quelques mois les habitants des localités de Ker à ceux de Nambelou. La même source précise que les habitants de Nambelou n'ont pas digéré cette situation et sont allés le mercredi dernier en expédition punitive pour agresser quelques femmes qui étaient au champ et les ont amputé les bras. Ce n'est pas tout. Ce samedi matin, les mêmes habitants de Nambelou sont allés encore attaquer ceux de la localité de Ker. Le bilan provisoire, d'après les sources concordantes, fait état d'une dizaine de personnes grièvement blessées, 2 personnes brûlées dans leur maison et des maisons incendiées non encore dénombrées. Ce bilan est confirmé par l'administrateur du territoire de Lodja qui affirme avoir déployé sur place une quarantaine d'agents de forces de l'ordre pour s'interposer entre les protagonistes. Déjà, quelques blessés sont acheminés à l'hôpital de référence de Lodja et au centre de santé des sœurs. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Et puis, notez qu'à propos de la situation de COVID-19 en RDC, la Direction générale des migrations DGM a rendu public hier des nouvelles directives d'entrée en République démocratique du Congo. Ces directives sont contenues dans une note circulaire modifiant celle adressée le vendredi 11 février aux directeurs provinciaux de la DGM, aux chefs des postes frontaliers ainsi qu'aux responsables des compagnies aériennes. Dans la nouvelle circulaire donc, datée du 12 février, la DGM rappelle que tout voyageur à l'entrée ou à la sortie du territoire national doit présenter obligatoirement un test PCR négatif réalisé dans le pays de provenance, cela 48 heures au plus tard, et l'obligation de se soumettre au test PCR réalisé par les services agréés à l'arrivée en RDC. Par ailleurs, Cette nouvelle circulaire souligne l'abrogation de l'interdiction d'embarquement des voyageurs en provenance ou ayant transité par l'Inde et le Brésil.
Actualité Afrique Monde.
Le Maroc a suspendu depuis la fin de l'année dernière les vols internationaux pour tenter de freiner la propagation du variant Omicron. Aujourd'hui, alors qu'il lève les restrictions, l'industrie du tourisme peine à se remettre sur pied. Le Maroc a accueilli 13 millions de touristes en 2019. En 2021, ce chiffre est tombé à seulement 4 millions. À la fin de l'année dernière, donc, la situation s'est considérablement aggravée avec cette suspension des vols internationaux. Le secteur du tourisme au Maroc était directement responsable d'environ 500 000 emplois et contribuait pour 8 milliards de dollars à l'économie avant la pandémie.
L'invité.
Il nous vient de la province de la Tchopo. La route Kisangani-Bafoua-Sendé est actuellement en pleine réhabilitation. Tous les grands bourbiers ont été supprimés. La circulation devient de plus en plus fluide. Mais que dire de l'insécurité devenue récurrente sur ce tronçon routier de la nationale numéro 4? Réponse à cette question et à tant d'autres dans cet entretien que Bireke Kafoura, administrateur du territoire de Bafoua-Sendé, a accordé à Jacques Moukonkolé.
Monsieur l'administrateur du territoire, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
La nationale 4 est en pleine réhabilitation actuellement par une société chinoise. N'est-ce pas une bonne chose pour les usagers de cette route en particulier et même pour la population en général?
Oui, tout à fait, monsieur le journaliste. Vous voyez l'impact ou l'importance de la route sur la vie quotidienne de la population. La RN4, c'est une route internationale puisque il y a la circulation des usagers de la route qui quittent même dans les pays étrangers, de Kampala, de Kigali, de la Tanzanie et des provinces en état de siège jusqu'à Kisangani. Et de Kisangani, vous voyez l'horizon vers l'équateur jusqu'à Kinshasa. Donc, l'entretien de la RN4, ça soulage les gens. Bon, parce que quand il y a des bourbiens, on arrive au cas où et des familles passent les nuits dans à la belle étoile, avec tout ce que ça peut entraîner. Donc, nous saluons l'état actuel de cette route, et d'une part. Et maintenant, vous avez suivi qu'il y a des gens, des scientifiques qui ont voulu développer un climat de coupeur de route sur la RN4. Donc, s'il y a encore des bourbiers, ça a des avantages. Mais avec les travaux d'entretien de cette route, c'est vraiment une bonne chose.
Qui entretient cette route?
C'est une société chinoise dans l'ensemble.
Et financée par qui?
Bon, le financement vient toujours du gouvernement. Le gouvernement qui finance et ils sont là comme une société qui évolue dans le secteur routier.
Est-ce que la fluidité du trafic sur cet axe routier a maintenant des conséquences positives, notamment sur le plan économique dans votre entité?
Oui, tout à fait, dans mon entité et dans la province. Vous voyez que nous sommes à l'est du pays. Et prenons l'exemple de la fourniture en carburant. C'est l'est qui fournit en grande quantité la consommation de carburant à Kisangani. Et quand on voit Kisangani, on voit le trafic sur le fleuve Congo et consorts. Donc c'est vraiment positif. Et le trafic est intense.
Mais nous constatons que les prix sur le marché ici sont supérieurs à ceux qui sont pratiqués sur le marché de Kisangani. Alors que les marchandises devaient coûter moins cher quand même.
Oui, oui, c'est constat, je l'ai trouvé, ça demeure, les opérateurs des produits pétroliers, ils brandissent l'argument selon lequel leurs stations qui sont à Kisangani, comme Kisangani c'est une grande ville avec beaucoup de véhicules, il y a circulation de vente, la vente est intense. Par contre ici, on peut faire avec une quantité plusieurs jours, voire des mois, et ce qui les pousse à mettre ces prix un peu élevés, mais c'est légèrement élevé, c'est autour de 500 francs ou 1000 francs.
Par rapport aux produits manufacturés, il y a quand même baisse des prix.
Non, ça ne peut pas être comme ça puisque nous sommes plus ravitaillés en produits manufacturés par l'Est. Alors, la province du Nord Kivu et de l'Ituri étant en état de siège avec tout ce qu'il y a comme coupeur de route avec les ADF, Nalo et consorts, Il faut attendre qu'on voie les véhicules qui nous amènent les produits manufacturés. Et par contre, ça a tendance à prendre la hausse, puisque c'est la loi de la demande.
Par rapport à la sécurité, est-ce que le problème que nous connaissons sur cette route vers Kisangani n'est pas lié à ce mouvement de population qui vient du côté de l'Est où il y a des opérations militaires?
Non, pas du tout. C'est vraiment différent. À l'Est, ce sont des inciviques qui, influencés par les ADF Nabloué consorts, avec les ambitions qui sont l'air contre notre République. Par contre, ici, à Bafoussende, on assiste ces derniers temps à des pillages.
Ces pillages sont perpétrés par qui?
Oui, ce sont des inciviques, ce sont des bandits armés et qui n'ont rien à voir avec les ADF Nabloué consorts. La province a déployé suffisamment des éléments et des renseignements militaires et de troisième zone de défense. Et en tout cas, ces gens, nous sommes en train de mater les réseaux là. Donc, ce sont des bandits armés qui opèrent. Je salue l'intervention musclée du gouvernement de province et qui est descendue avec le groupe de sécurité vers le 95 sur la coupure de route qui vient de s'opérer.
Monsieur l'administrateur du territoire de Bafoussende, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'était là notre invité, l'administrateur Bireke Kafoura, répondait aux questions de Jacques Moukonkolé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.